Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment être un bon gestionnaire pour ses employés TDAH? Un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 15 avril 2025 dans Urbania. 4 conseils pour adapter son milieu de travail. Vous êtes gestionnaire, chef d'équipe ou peut-être même PDG d'une multinationale valant des milliards de dollars, auquel cas, allô, voulez-vous me commanditer? Et vous avez envie d'être un meilleur patron pour vos employés vivant avec un TDAH ou trouble du déficit d'attention avec hyperactivité? L'affaire, c'est que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Les ressources disent une tonne de choses et leur contraire. Et de toute façon, tout le monde s'auto-diagnostique un TDAH à la minute où ils se surprennent à scroller TikTok en regardant la télé. Avec tout ça, c'est bien difficile d'avoir une opinion sérieuse sur le sujet. On a donc une bonne nouvelle pour vous. On a parlé avec Nina Thomas, doctorante en administration et politique de l'éducation à l'Université Laval et qui se spécialise en développement du leadership neuro-inclusif. Bref, c'est une experte sur le sujet et on lui a posé toutes les questions qui pourraient vous traverser l'esprit. Conseil numéro 1. Comprendre le TDAH. En bonne scientifique, Mme Thomas commence en définissant les termes. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la neurodivergence dont fait partie le TDAH, comment notre cerveau va traiter l'information de notre environnement, sensorielle, affective, sociale, cognitive. Une personne qui a une neurodivergence, dans ce cas-ci le TDAH, va avoir des enjeux au niveau du traitement de cette information qui va faire en sorte que l'environnement qu'on va lui offrir ne sera pas adéquat. Il va peut-être y avoir des enjeux de compréhension ou d'ajustement qui feront que ça va être difficile pour ces personnes de performer dans un environnement standardisé. Et quelle forme prend le TDAH en milieu de travail? Tous les cerveaux sont différents et la neurodivergence du TDAH ne se manifestera pas de la même façon pour tout le monde. Mais dans tous les cas, il y a un enjeu au niveau de la mémoire de travail. Là-dessus, Mme Thomas émet son premier conseil pour les gestionnaires qui veulent s'assurer que leur milieu de travail convient à leurs employés vivant avec un TDAH. Mon premier conseil serait de dire qu'il faut aller au-delà de cette idée voulant qu'il y a un profil type du TDAH. Ce sont des personnes qui ont passé toute leur vie à se faire dire que leurs traits sont stigmatisés. Ils éprouvent souvent un sentiment d'imposteur, d'infériorité ou d'incapacité. Conseil numéro 2. Parler de besoins, pas de capacités. Selon Nina Thomas, la stigmatisation des personnes neurodivergentes est un problème constant en milieu de travail. On ne les stigmatise pas parce qu'on est méchant, c'est notre cerveau qui nous pousse à discriminer. D'emblée, les personnes neurodivergentes ont des traits qui sont stigmatisés. Systématiquement, les humains placent les gens sur un axe de compétence et d'amabilité et une telle classification suscite des réponses et des émotions positives ou négatives de notre part. Tous les cerveaux fonctionnent comme ça, qu'on le veuille ou non. Le hic, c'est que les personnes neurodivergentes sont systématiquement classées de façon inconsciente comme étant des personnes à faible compétence et pas nécessairement aimables non plus, tout dépendant de leur type de neurodivergence. Et, comme il s'agit d'un réflexe, c'est difficile de penser autrement. On ne peut pas changer comment notre cerveau fonctionne, mais on peut en prendre conscience. Cette stigmatisation du TDAH et des neurodivergences en général a comme effet pervers de pousser les personnes neurodivergentes à tenter de se cacher au lieu de faire part de leurs besoins, comme l'explique souvent la doctorante au gestionnaire qu'elle rencontre. En tant que gestionnaire, vous allez travailler avec une population qui a l'habitude qu'une partie de leur identité soit perçue de façon négative. Ce sont des gens qui, à ce moment-là, seront moins portés à demander de l'aide parce que ça renforce cette idée qu'ils auraient moins de compétences, alors que ce n'est pas le cas. Au lieu de parler de capacité, il faudrait plutôt parler de besoin et se demander comment l'environnement répondra aux besoins de ces personnes-là parce que ce qui va fonctionner pour une ne va pas nécessairement fonctionner pour une autre. Conseil numéro 3. Encouragez le coaching inversé. La question est loin d'être simple, mais voici tout de même quelques pistes qui pourraient vous être utiles. Chaque personne avec un TDAH est unique, et la communication entre le et la gestionnaire et l'employé est d'une importance capitale. La perception des compétences, la confiance et le fait d'avoir un bon lien feront que c'est plus facile de nommer ses besoins. Ce sera aussi plus facile de faire ce qu'on appelle un coaching inversé, où autant le ou la gestionnaire accompagne la personne employée que la personne employée émet une rétroaction en fonction de sa façon de fonctionner. Madame Thomas spécifie que ces trucs ne s'adresse pas qu'au gestionnaire, mais bien à toute personne ayant de l'influence dans un milieu de travail, allant du représentant syndical à la personne super populaire au bureau qui n'a pas peur de faire entendre son opinion autour de la machine à café. Conseil numéro 4. Développez votre leadership neuro-inclusif. Dans une trousse d'employabilité neuro-inclusive, à laquelle a d'ailleurs contribué Mme Thomas, on vous invite à la lire pour approfondir vos recherches, on propose 5 compétences en leadership neuro-inclusif à développer. 1. Développer une communication neuro-inclusive, par exemple, en utilisant toujours 2 moyens différents pour communiquer les informations importantes. 2. Créer une culture organisationnelle, structure et administration inclusive. Par exemple, en ayant recours à des méthodes non traditionnelles en entrevue, comme fournir les questions d'avance au candidat ou à la candidate. 3. Encourager un environnement social inclusif. Ici, vous pouvez offrir à vos employés neurodivergents de créer des espaces ou des événements sociaux qui leur seront réservés. 4. Mettre en place un environnement de travail neuro-inclusif. Vous pouvez, par exemple, sonder vos employés sur les distractions physiques, cognitives et sociales dans leur environnement de travail. 5. Cultiver votre leadership neuro-inclusif. Par exemple, consultez vos employés sur les moyens d'intervention à préconiser lors de situations d'inégalité et d'injustice. Voici donc quelques exemples, mais on ne s'étendra pas trop en détail parce qu'on préfère vous encourager à aller consulter le document. Pourquoi faire tous ces efforts? En envisageant cette problématique dans toute sa complexité, il est certain qu'on aurait envie de se dire qu'au lieu de se compliquer la vie, ce serait peut-être plus simple d'engager des personnes neurotypiques. Pas très inclusif, mais plus simple. Mais Nina Thomas a un petit secret pour vous. Vous avez déjà des employés neurodivergents. 15 % à 20 % de la population a une neurodivergence. C'est pas une question d'embaucher, c'est une question de rendre l'environnement adéquat pour les personnes qui sont déjà là. C'est un faux débat. Il y a également beaucoup d'avantages à mieux aménager un milieu de travail pour les personnes avec un TDAH ou toute autre neurodivergence. En mettant en place un environnement de travail et des horaires flexibles, des mentors, du coaching, tout ça, on encourage la personne à rester et, en bout de piste, c'est la relation entre la personne gestionnaire et la personne employée qui sera plus solide. Si vous voulez avoir des employés plus heureux, plus productifs et qui resteront avec votre entreprise plus longtemps, ces efforts deviennent essentiels. Quand on regarde les arrêts de travail, le taux d'épuisement, le taux de roulement, les raisons pour lesquelles les gens quittent une entreprise ou pour lesquelles les gens vont choisir une entreprise plutôt qu'une autre, ça a très souvent un lien avec ça. Vous voulez des employés heureux, qui ne sont pas toujours partis en burn-out? Peut-être faut-il adapter votre environnement de travail. PS, si vous voulez poursuivre votre réflexion, Nina Thomas nous a gentiment partagé ses ressources au sujet des gestionnaires et de la neurodivergence. Bonne lecture. C'était « Comment être un bon gestionnaire pour ses employés TDAH », un texte de Pierre-Luc Ouellette, paru le 15 avril 2025 dans Urbania.
Après l'insulte, l'expulsion pour les Haïtiens de l'Ohio, un texte de Fabien Deglise paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir. Kathleen Moïse, propriétaire d'un petit restaurant de cuisine haïtienne à Springfield, en Ohio, avait jusque très récemment l'habitude de préparer des buffets pour des événements plutôt festifs, des naissances, des retrouvailles, des remises de diplômes, des fêtes religieuses. Mais depuis le début de l'année 2025 et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, une nouvelle demande s'est ajoutée à son carnet de commandes. On organise de plus en plus de repas pour marquer le départ de membres de notre communauté, dit la jeune restauratrice, la voix douce et le regard triste. Encore hier soir, on a eu une réunion de 10 personnes pour une autre famille qui a décidé d'aller vivre ailleurs. Les gens ont peur. Ils ne veulent plus rester ici. L'esprit des lieux a radicalement changé à Springfield, ville simple et anonyme du cœur industriel de l'Ohio, placée malgré elle l'automne dernier au centre de l'attention nationale par la politique conservatrice américaine. Cela a commencé en septembre, lorsque J.D. Vance, sénateur de l'Ohio et alors candidat à la vice-présidence pour les Républicains, a laissé entendre que les Haïtiens enlevaient et mangeaient les animaux domestiques des habitants du coin. Une histoire qui n'est basée sur aucun fait, inventée de toutes pièces et à dessein pour exciter la xénophobie de sa base électorale, et pourtant reprise le mois suivant par Donald Trump lors du débat télévisé de la présidentielle pour porter le mensonge encore plus loin. Et ce n'était pas fini. En revenant à la Maison-Blanche en janvier, le populiste a maintenu la pression sur cette ville de 55 000 âmes, jusque-là sans histoire. Le républicain fait planer désormais une menace d'expulsion massive sur les quelques 15 000 immigrants haïtiens qui y vivent. La plupart d'entre eux jouissent d'un statut de protection temporaire offert légalement par le gouvernement américain aux citoyens fuyant des violences ou une catastrophe naturelle dans leur pays d'origine. Donald Trump y a mis fin en mars 2025 pour les ressortissants de 17 pays, dont Haïti, prétextant des abus et une exploitation du système par ces immigrants. Le destin de 500 000 Haïtiens se retrouve ainsi dans la ligne de mire des autorités migratoires américaines partout au pays, tout comme dans cette ville industrielle de l'Ohio qu'ils ont pourtant contribué à ramener à la vie, et ce, après plusieurs décennies de déclin. C'est une tragédie qui succède à une autre, résume en entrevue Carl Ruby, fondateur de l'organisme Springfield Neighbors United, outré par les déclarations de Donald Trump durant la campagne électorale et par la guerre à l'immigration qu'il entretient depuis sa reprise du pouvoir. L'arrivée des Haïtiens à Springfield a été une des bonnes choses qui se sont produites dans la ville depuis au moins 50 ans. Notre population était vieillissante et en baisse depuis 1970. Nous étions en train de revenir à notre taille de 1920. Nous avions besoin de jeunes, de familles, de travailleurs, et c'est ce que les Haïtiens ont apporté. Ils nous ont fait renouer avec la croissance. Ils ont ouvert des commerces, des églises, fondé des organisations sociales. Ils ont permis à des entreprises existantes de rester en vie et de croître. C'est tout ça qui, désormais, est menacé par Donald Trump. Au début de février 2025, un premier groupe d'Haïtiens a été renvoyé sur l'île des Caraïbes par le gouvernement américain, semant angoisse et consternation au sein de la diaspora haïtienne de Springfield. Ironiquement, leur avion a dû atterrir à Cap-Haïtien en raison de l'insécurité et du contrôle de l'aéroport de Port-au-Prince par les gangs criminalisés qui, depuis l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en 2021, ont pris le pays en otage. La gangrène de la violence des gangs rapproche la crise haïtienne d'un point de non-retour, a prévenu le 21 avril la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, Maria Isabel Salvador, devant les membres du Conseil de sécurité de l'organisation. La peur au ventre. Nous vivons dans la peur et le stress au quotidien, résume Benito, un jeune Haïtien dans la trentaine, technicien dans une usine de plastique rencontré il y a quelques jours dans le stationnement d'un centre commercial de Springfield. Notre statut doit prendre fin le 4 août 2025, et c'est quelque chose de terriblement angoissant. Nous ne pouvons pas retourner en Haïti, où nous allons être mis en danger en raison de la vie que nous avons eue ici. Il mentionne qu'un chef de gang haïtien aurait récemment dit attendre avec impatience les expulsions de Donald Trump pour enlever les expulsés et voler leur argent. Tout ce que nous pouvons faire en ce moment, c'est rester calme, continuer à travailler en attendant que la tapette à mouche nous tombe dessus, ajoute-t-il. Arrêter de vivre serait de l'autodestruction, dit le pasteur Ville d'Orsainville du Centre communautaire haïtien de Springfield. Même si l'incertitude et l'insécurité sont aujourd'hui répandues dans la communauté. Le gouvernement actuel n'est pas clair sur ce qu'il veut. Il dit rechercher des criminels, mais il expulse aussi des citoyens américains. Personne n'est à l'abri. Nous étions la ville la plus triste des États-Unis et nous risquons de le redevenir, dit Carl Ruby. Environ un tiers des Haïtiens de Springfield ont déjà quitté Springfield pour aller s'installer dans d'autres États, où les regards sont moins portés sur eux ou d'autres pays. Il mentionne le Brésil et le Canada en soulignant que les choses sont toutefois compliquées aussi là-bas pour eux. Depuis la renégociation de l'entente sur les tiers pays sûrs, les demandes d'asile sont plus encadrées et les candidats au déménagement sur le sol canadien s'exposent à un refus ou à un renvoi systématique aux États-Unis s'ils tentent de franchir la frontière. Quelques exceptions existent, pour les mineurs non accompagnés ou encore pour ceux qui ont un membre de leur famille proche au Canada, qui peuvent tenter de trouver refuge par la voie terrestre. Nous aidons ceux qui sont encore là à s'organiser pour faire face à la menace qui pèse sur eux, poursuit M. Ruby. Plusieurs ont reçu des lettres annonçant leur expulsion imminente et les incitant à partir d'eux-mêmes. Donald Trump ne menace pas seulement de leur retirer leur statut de protection temporaire, mais aussi de leur imposer des amendes de $88 par jour s'ils restent après la fin de cette protection. Ils menacent aussi de saisir leurs biens et leurs propriétés. Se préparer au pire. Le Centre communautaire haïtien de Springfield et Springfield Neighbors United tiennent depuis le début de l'année des rencontres avec des avocats spécialisés en immigration pour informer les Haïtiens sur leurs droits en cas d'interpellation par des agents d'immigration. La protection de leurs biens, mais aussi la préparation d'une tutelle pour leurs enfants, dans le cas où ces derniers seraient nés aux États-Unis, sont également au cœur des discussions. C'est terrible de demander une chose pareille à des parents menacés d'expulsion, mais c'est l'Amérique dans laquelle nous sommes entrés, poursuit M. Ruby. Il règne une grande confusion, résume Michelle Baumgard, rectrice de la Christ Episcopal Church de Springfield. Les gens reçoivent des messages erronés leur indiquant qu'ils doivent partir, même s'ils ont un statut légal aux États-Unis, même s'ils sont citoyens américains, et cela crée de la peur, y compris chez les employeurs qui hésitent désormais à embaucher des Haïtiens ou mettent à pied leurs employés actuels par anticipation. Depuis janvier 2025, « Je n'arrive pas à trouver du travail », assure Jean-Marie, un chauffeur de camion arrivé d'Haïti à l'été 2024 à Springfield avec l'espoir d'y travailler pour envoyer de l'argent à sa famille. Je pense aller voir ailleurs. Mais où? On est menacé partout aux États-Unis, et retourner en Haïti est bien trop dangereux pour le moment. Cette tension politique induite sur la communauté haïtienne de Springfield, qu'elle connaît bien, désole au plus haut point l'anthropologue Miranda Hallett, spécialiste des droits de la personne à l'Université de Dayton, en Ohio. Comme dans de nombreux autres pays, notre sphère publique est de plus en plus inondée de métaphores et de discours anti-immigrés, la plupart fondés sur des faits erronés, des exagérations, voire de la désinformation, dit la professeure. Mais à Springfield, nous sentons aussi que les liens sociaux entre voisins, amis, familles d'immigrés restent malgré tout très forts. Beaucoup ici continuent de croire que c'est l'intégration et la collaboration qui donnent des communautés plus sûres, plutôt que la division et la discorde. Une solidarité défendue par Carl Ruby et qu'il comprend très bien. Les Haïtiens ont permis à des écoles de ne pas fermer. Plusieurs travaillent dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans les services offerts par la ville. Certains occupent des postes la nuit dans des usines qui avaient de la difficulté à embaucher. Leur destin s'est imbriqué en plus de 10 ans à celui de la ville. Et désormais, de leur survie ici dépend aussi la nôtre. C'était, après l'insulte, l'expulsion pour les Haïtiens de l'Ohio, un texte de Fabien Deglise paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir.
L'art de durer, une chronique de Dominique Lemieux, paru le 7 avril 2025 dans les libraires. C'était une journée nuageuse de la mi-décembre. Le thermomètre s'amusait avec le point de congélation. La bibliothèque était agitée. Groupes d'adolescentes et d'adolescents, les habitués du rez-de-chaussée. Le soleil se couchait déjà. Ma collègue France me souriait. C'était le temps d'y aller, rejoindre les collègues rassemblés dans une salle pour l'accompagner dans cette grande étape, tourner la page sur les 32 dernières années de sa vie. France allait prendre sa retraite. Elle, que j'avais eu tant de plaisir à côtoyer, son regard pétillant, ses conseils toujours avisés, nos discussions sur nos lectures. France aura maîtrisé, parmi 1000 autres talents, l'art de durer. L'art de surprendre. Michael Delisle s'acharne avec les mots depuis plus de 45 ans et, bien que chaque fois il se nourrisse de ses thématiques phares, l'enfance, le passage à la vie adulte, la famille dysfonctionnelle, il ose les louvoiements, un va-et-vient continu entre l'ailleurs et ce qu'il habite en plein cœur. Sa nouveauté, Veuve chose, se nourrit des dérives de l'époque actuelle pour offrir une vision d'avenir où oppression, surveillance, des drones partout et méfiance s'en mêlent. Tout commence avec Jean-Marc, un jeune homme, pas encore la majorité, placé dans une maison d'accueil par l'État, qui doit faire un choix. Le service militaire pendant 12 mois, ou bien une corvée où il doit se transformer en bourreau. Au moment d'exécuter un criminel notoire et une femme soupçonnée d'avoir empoisonné son mari et ses enfants, la veuve chose du titre, Jean-Marc refuse d'aller de l'avant et se voit imposer la responsabilité des 2 condamnés. Ce moment clé devient le début d'une autre aventure, loin de la vie rêvée, une fuite en marge, une fausse liberté qui les mène à Jinx River, parc industriel où se trouve la confiserie nationale Bonbon Caramel Rocher. l'univers imaginé par Delille, toujours appuyé par une écriture dépouillée, mesurée, n'épouse pas le modèle habituel des dystopies, préférant la retenue, les non-dits, l'absence de réponse claire. On comprend que tout est contrôlé, on comprend que les options sont limitées, mais le lecteur tisse, aux côtés de l'écrivain, sa propre version de l'histoire, une version où l'insoumission demeure possible et où la rupture est peut-être la seule avenue possible. L'art de creuser. C'est aussi au début des années 1980 que la grande Louise Dupré se lance en écriture, de la poésie, du théâtre, puis un premier roman en 1996, La Memoria, une réussite, et ça se poursuit. Les parutions surgissent toujours à notre grande joie. 10 ans après avoir consacré un magnifique livre à sa mère, l'album multicolore, Dupré revisite une autre page de son album personnel avec L'homme au camion, récit retraçant l'histoire de son père, Arthur Aimé, homme hanté par une enfance brisée, et fouillant les secrets de la généalogie familiale paternelle. Parfois, sous des fondations considérées comme solides, se cachent des failles difficiles à imaginer. La quête de vérité de la narratrice et de son frère donne certains résultats. L'histoire des grands-parents, la désertion du grand-père, la détresse de la grand-mère, les oncles mis à l'orphelinat, la mort de la grand-mère, puis, 3 ans plus tard, du père. Dupré tend des cordes entre des faits, des observations, cherche à comprendre les dessous d'une histoire qui lui permettra de mieux apprivoiser ce père distant, digne mais fragile, bon mais qui n'avait jamais connu la tendresse, un père écorché qui n'a jamais trouvé sa place et qui a souffert de ce manque d'amour, un homme qui a côtoyé les ombres jusqu'à sa mort au début des années 1980. L'autrice doute de tout. Comment faire autrement quand l'histoire officielle a toujours été tenue à distance? Suppose, bricole des scénarios, doit combler les vides, le propre des existences vécues par celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se raconter. Dupré parle avec force de ce besoin de raconter, même au risque d'inventer, de ces traumatismes qui se transmettent en silence de génération en génération et réussit peut-être enfin à faire la paix avec cette partie de son histoire. L'art d'aller plus loin. Née en Algérie et installée au Québec, à l'aube de son 10e anniversaire, Katia Belkodia tisse, depuis son premier roman paru en 2008, une œuvre distinctive dans notre milieu littéraire. Avec son ambitieux nouveau roman « Les déterrés », elle rassemble les germes de ce qui était déposé dans ses premiers ouvrages, la vivacité d'une langue poétique pénétrante et agile, le foisonnement de l'imagination, la célébration de tous les mouvements de la vie intérieure, la force ou la fragilité des liens, les paysages de l'enfance et de l'adolescence. Les déterrés réveillent les fantômes d'une lignée, famille algérienne qui décide d'immigrer au Québec, une succession de courts chapitres pour raconter, en ordre et désordre, le chemin parcouru, les deuils et joies, les luttes et résistances, les fissures et autres violences. Autour de Rim, cœur vibrant du roman, on côtoie un lot de personnages, pluie de parents, oncles et tantes, grands-parents et arrière-grands-parents, cousines, puis la prochaine génération qui surgit au détour. Belkodia nous fait vivre l'immigration de l'intérieur, les souvenirs d'une Algérie en lutte, les reconstructions, les réponses à trouver, les zones d'ombre, certainement inévitables dans tout parcours d'exil. Quand les pages se tournent, quand les années passent, quand le regard ne se tourne que vers la suite des choses, que peut-il rester pour celles et ceux qui suivent, les générations d'après? Il faut raconter, nous rappelle Belcodia, pour que survive la mémoire. Pour preuve, ce livre, comme une humanité à préserver, ce livre pour y déposer des souvenirs et la mémoire de gens qui auraient pu, comme tant d'autres, sombrer dans l'oubli. Lentement, tisser un livre et un autre, et encore, avec patience, avec justesse, faire œuvre, durer. C'était « L'art de durer », une chronique de Dominique Lemieux, parue le 7 avril 2025 dans Les Libraires.
Les Dénisoviens, ces humains préhistoriques qui nous font réécrire l'histoire de notre espèce. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 3 octobre 2024 dans le magazine Québec Science. Plus de 30 000 ans après son extinction, la population dénisovienne survit en nous. Ces êtres humains préhistoriques ont changé la vision de notre propre évolution. Une phalange d'annulaire, une de gros orteils, un fragment de crâne, quelques dents, une demi-mâchoire inférieure, ainsi qu'un morceau de côte. Ces fossiles, qui tiendraient dans une petite boîte à chaussures, sont les seuls os reconnus d'une lignée humaine aujourd'hui disparue, la lignée dénisovienne. De cette population fantôme, on sait encore peu de choses, que ce soit sur son apparence, son mode de vie, sa culture et même sa disparition. On sait toutefois que ces intrigants humains ont côtoyé les Néandertaliens, nos cousins préhistoriques, ainsi que nos ancêtres Homo sapiens, se reproduisant même avec eux. Et ce, jusqu'à seulement 30 000 ans avant notre ère. Si bien que des populations actuelles portent dans leur ADN des gènes d'origine dénisovienne. C'est dire si nos histoires sont entremêlées. Ce mélange rebat les cartes de l'histoire de l'humanité. Et les paléo-anthropologues multiplient les analyses moléculaires et, surtout, les efforts pour dénicher des fossiles le plus complets afin d'établir un meilleur portrait de la famille dénisovienne. Leur quête a débuté à la fin des années 2000 dans la grotte de Denisova, au cœur des montagnes de l'Altaï, en Sibérie. Cette grotte, Bense Viola, paléanthropologue à l'Université de Toronto, la connaît bien. Il y a étudié des fossiles néandertaliens lors de son doctorat à l'Université de Vienne, en Autriche. En 2009, pour son stage postdoctoral, il se rend à Leipzig, en Allemagne, où il intègre l'équipe de Svante Paabo, le pionnier du séquençage d'ADN de fossiles. Celui-ci recevra d'ailleurs le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2022. Là, le premier courriel que j'ai reçu lors de mon stage, raconte Bense Viola, c'était Svante qui me demandait de venir donner mon avis sur des résultats étranges obtenus par Johannes Kraus, un généticien du laboratoire. Il s'agissait d'une séquence d'ADN extraite d'une phalange d'allure humaine, mais inclassable, datée d'entre 77 000 et 52 000 ans et trouvée dans la grotte de Denisova un an plus tôt. Un récit gravé dans l'ADN. Que dit cet ADN? Qu'il n'a appartenu ni à un individu néandertalien, ni à un homo sapiens, mais à un être humain inconnu, à la fois distinct et proche génétiquement des deux premiers. Mon rôle de paléo-anthropologue, c'était d'aider à interpréter ces résultats dans le contexte de l'évolution humaine, ajoute Bence Viola. Les scientifiques publient le génome complet de cette nouvelle lignée humaine dans deux articles dans Nature en 2010. Paradoxalement, notre connaissance génétique de cette nouvelle branche est insuffisante pour lui donner un nom scientifique d'espèce, tel qu'Homo sapiens. Pour cela, il faudrait pouvoir la décrire minimalement, ce qui est impossible à cause du faible nombre de fossiles actuellement. On parle donc des Denisoviens. Les différences génétiques entre deux lignées indique depuis combien de temps elles se sont séparées l'une de l'autre. D'après les analyses publiées dans Nature, le plus récent ancêtre commun des trois lignées a vécu il y a 750 000 ans. Qui pouvait l'être? Probablement Homo rhodesiensis, un humain archaïque qui occupait la plus grande partie de l'Afrique. Un groupe de cette espèce a quitté ce continent il y a environ 800 000 ans et a pris le nom d'Homo heidelbergensis en s'installant en Europe, nous répond Sylvana Condemi, paléo-anthropologue au Centre national de la recherche scientifique en France et co-autrice de l'essai L'énigme Denisova, publié en 2024 avec le journaliste François Savatier. Après sa sortie d'Afrique, ce groupe donne naissance à une lignée qui s'est séparée vers moins 400 000 ans en deux groupes frères, les Denisoviens en Asie et les Néandertaliens en Europe et au Moyen-Orient, mais aussi ponctuellement dans l'ouest de l'Asie. Enfin, Homo sapiens est né il y a 250 000 ans, en Afrique, issu, lui aussi, d'Homo rhodesiensis, qui y existait toujours. Puis, vers moins 70 000 ans, un groupe d'Homo sapiens quitte à son tour le continent africain pour coloniser la planète et y rencontrer, à l'occasion, ses lignées cousines, déjà bien installées. Métissage multiple. Connaissez-vous Danny? Probablement pas. C'est une adolescente de 13 ans. Ou plutôt, elle avait environ 13 ans quand elle est morte, il y a 90 000 ans. Tout ce qui reste d'elle, c'est un morceau d'os non identifiable trouvée dans la grotte de Denisova. Le séquençage de son ADN en 2018 a révélé que le père de Denny était Denisovien, tandis que sa mère était néandertalienne. Non seulement la lignée Denisovienne s'est métissée avec Homo sapiens, mais elle s'est aussi mélangée avec la branche néandertalienne. Ajoutons ici que Néandertal et Sapiens se sont également hybridés en Europe et en Asie. Si bien que les populations actuelles originaires de ces continents possèdent 2 % d'ADN néandertalien. Celui-ci contient, par exemple, des gènes conférant une protection partielle contre le VIH-Sida, mais aussi augmentant le risque d'aggravation de la COVID-19. Cette interfécondité avec, au moins, deux autres espèces humaines aurait joué un rôle clé dans l'évolution d'Homo sapiens. Après avoir quitté l'Afrique, il y a environ 70 000 ans, celui-ci rencontre des groupes néandertaliens et dénisoviens bien adaptés à leur environnement. Le métissage fournit à Homo sapiens des gènes essentiels à sa survie dans ces nouveaux milieux. Par exemple, les gènes ayant permis au peuple néandertalien de survivre aux périodes glaciaires. Ils adapteront rapidement Homo sapiens, arrivé d'Afrique, à son nouvel environnement européen, plus froid. Les diverses analyses génétiques montrent en fait toutes sortes de croisements au fil du temps et des migrations. Par exemple, des Homo sapiens qui s'hybrident avec des individus néandertaliens déjà métissés avec des Homo sapiens anciens 150 000 ans plus tôt. Voilà qui complique notre histoire. C'est ce qui fascine le plus Bence Viola depuis ce premier courriel lors de son stage postdoctoral. L'évolution humaine est beaucoup plus complexe qu'on croyait. Fini le temps où on pensait que les lignées humaines se succédaient sans se côtoyer. Fabrice Déméter abonde dans son sens. Il faut réaliser qu'il y a environ 60 000 ans, au moins 6 espèces humaines foulaient le sol de l'Eurasie. Les Dénisoviens, les Néandertaliens et nos propres ancêtres Homo sapiens, mais aussi Homo erectus, ainsi qu'Homo floresiensis et Homo lusonensis, 2 espèces isolées en Indonésie et aux Philippines respectivement. Et Sylvana Condemi de conclure, l'évolution humaine n'est pas linéaire, elle est buissonnante. Une espèce yéti? En mai 2019, toujours dans Nature, l'analyse d'une demi-mâchoire fossile découverte en 1980 dans la grotte de Beishiya, à plus de 3000 mètres d'altitude, sur le plateau tibétain en Chine, vient enrichir le tableau. L'ADN de cette mâchoire de 160 000 ans étant trop dégradé, les scientifiques en ont analysé des protéines plus résistantes. Résultat? Ces protéines sont bien liées à l'ADN dénisovien. Sibérie, plateau tibétain, les dénisoviens étaient-ils des sortes de yétis adaptés à l'altitude et au froid? Au moins une partie d'entre eux. Des gènes dénisoviens d'adaptation au froid existent toujours chez certaines populations actuelles, ce qui prouve du même coup le métissage avec Homo sapiens. C'est ainsi que le gène EPAS1, détecté dans la population tibétaine actuelle et fort utile à la vie en altitude, où l'oxygène est plus rare, était déjà présent chez les Dénisoviens. Autre exemple, chez les Inuits, qui descendent de peuplades sibériennes, la version du gène TBX15 ressemble beaucoup plus à la version dénisovienne qu'à celle des autres humains actuels. Or, ce gène contribue à maintenir la température corporelle dans un climat froid. Et il y a d'autres surprises génétiques. Tout d'abord, de 3 à 5 % de l'ADN de la population mélanésienne, des aborigènes d'Australie et des autochtones Aïta des Philippines est dénisovien. Cette persistance montre que cet ADN a joué un rôle important dans la survie de ces populations. Il contient, par exemple, des gènes jouant un rôle dans le système immunitaire. Pourtant, ces populations vivent dans les climats tropicaux, loin de la froide Sibérie. Alors, d'où vient cet ADN? De peuplades dénisoviennes ayant vécu dans ces régions tropicales? Ou d'Homo sapiens, déjà hybridé avec des dénisoviens qui se seraient aventurés au sud? Vous écoutez? Les dénisoviens, ces humains préhistoriques qui nous font réécrire l'histoire de notre espèce. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 3 octobre 2024 dans le magazine Québec Science. Un Nobel pour l'ADN préhistorique. Il y a un avant et un après. L'arrivée de la génétique a assurément bouleversé les choses, lance Michel Drapeau, paléoanthropologue à l'Université de Montréal, qui a assisté à l'éclosion de la génétique dans sa discipline. Le séquençage d'ADN permet d'identifier des lignées et de préciser les degrés de parenté entre elles, ainsi que le moment où elles se sont séparées. Bref, la génétique nous dévoile un pan de l'histoire du vivant inaccessible autrement. Le problème, continue la chercheuse, c'est la préservation de l'ADN au cours des millénaires. Celui-ci résiste mieux quand il est maintenu au froid, par exemple dans les grottes. Le pionnier du séquençage d'ADN ancien est le Suédois Svante Paabo, aujourd'hui à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, en Allemagne. Son tour de force qui l'a mené au Nobel a consisté à trouver un moyen d'extraire l'ADN des fossiles et de le décontaminer de tous les ADN provenant d'autres organismes au fil du temps. Il a ainsi séquencé l'ADN complet de plusieurs individus néandertaliens, établissant du même coup 1. La parenté entre eux et Homo sapiens et 2. La présence de 2% d'ADN néandertalien dans les populations eurasiennes actuelles. Autre façon de faire parler l'ADN, à l'Université hébraïque de Jérusalem, l'équipe de Liran Carmel a réalisé le portrait robot d'une dénisovienne à partir du génome de celle-ci. Pas à partir de la séquence de l'ADN d'elle-même, mais sur la base de l'activité des gènes. Plus l'activité d'un gène est faible, plus il comporte de cadenas moléculaires, des molécules de méthyle accrochées à l'ADN. En comparant les profils de méthylation de l'ADN dénisovien avec celui d'autres primates dont le squelette est connu, y compris des humains actuels, Liran Carmel a élaboré un squelette dénisovien plausible et montré que les humains de Denisova avaient la peau, les cheveux et les yeux bruns. Voyage au bout de l'Asie. La réponse paraît en 2022, dans un article de Nature Communication portant sur un tout petit fossile découvert fin 2018 dans une grotte au Laos. 4 jours avant la fin de notre expédition pour trouver des restes d'humains anciens, relate Fabrice Demeter, paléoanthropologue au Centre de géogénétique de la Fondation Lundbeck à Copenhague, au Danemark, notre spéléologue Éric Suzoni fait un peu de prospection dans une nouvelle grotte en prévision de fouilles futures. À son retour, il nous montre sa récolte de fragments de roches et d'os, tout en gardant le meilleur pour la fin, une molaire humaine, ancienne, mais assurément pas une molaire d'Homo sapiens. Cette dent se trouvait au sein de sédiments et d'os d'animaux datés ultérieurement de 131 000 à 164 000 ans. D'après l'analyse de ces protéines, elle a appartenu à un individu homo de sexe féminin, sans plus de précision. Or, d'après des analyses poussées en laboratoire, elle ressemble tellement aux molaires de la demi-mâchoire dénisovienne trouvée dans la grotte de Baïchia qu'elle doit appartenir à la même lignée. Des groupes dénisoviens non hybridés avec Homo sapiens auraient donc bien atteint l'Asie tropicale du Sud-Est. Toutefois, l'aire d'habitation des dénisoviens devait correspondre plus ou moins à la Chine, avec son climat plus clément, souligne Fabrice Demeter. La Sibérie, le plateau tibétain et même le Laos, ça devait être la périphérie. Mais alors, pourquoi n'a-t-on pas trouvé plus de fossiles dénisoviens en Chine? Justement, depuis près d'un siècle, les anthropologues ont découvert plusieurs fossiles de l'époque dénisovienne aux quatre coins de la Chine, surtout des crânes. Ceux-ci se sont retrouvés classés dans des catégories inventées pour l'occasion ou fourre-tout, comme humains archaïques. À l'instar de plusieurs autres paléo-anthropologues, y compris Bensé Viola, Fabrice Demeter s'attend à ce qu'au moins quelques-uns de ces crânes soient en fait dénisoviens. Mais aucune étude d'ADN ou de protéines n'a été publiée jusqu'ici, probablement parce que ces molécules sont trop dégradées. Plus libre dans l'énigme Denisova que dans une revue savante, Silvana Condemi franchit le pas. Pour elle, plusieurs de ses crânes, ainsi qu'une autre demi-mâchoire, littéralement pêchée en 2008, dans le détroit de Taïwan, sont d'origine dénisovienne. Elle les classe ainsi sur la base de leur datation et de trois types de critères morphologiques. Ceux archaïques, hérités d'Homo rhodesiensis heidelbergensis, d'autres partagés avec la fratrie néandertalienne et les derniers appartenant uniquement au crâne en question. Par exemple, des arcades sourcilières prononcées, mais qui ne fusionnent pas complètement au-dessus de l'arête du nez, contrairement aux arcades néandertaliennes. C'est la solution la plus parcimonieuse, explique-t-elle. Autrement dit, la plus simple. D'autant plus que ces fossiles sont compatibles avec un portrait robot esquissé à partir de l'ADN dénisovien. Le Graal des paléo-anthropologues. Retour à la grotte de Baïchia sur le plateau tibétain. Dans Nature de juillet 2024, des scientifiques de l'université Lanzhou, en Chine, rapportent y avoir découvert des milliers de fragments d'os d'animaux ainsi qu'un éclat d'os aux protéines dénisoviennes. Un grand nombre de ces os d'animaux portaient des marques de dépeçage. Selon les analyses de protéines, il s'agit surtout d'herbivores de la famille des moutons, mais on y trouve aussi des aigles et de petits rongeurs, ce qui laisse penser que ces homininés étaient d'habiles chasseurs. On y a aussi identifié des os de yak, de rhinocéros laineux et de carnivores tels que des hyènes et des loups. Autrement dit, les groupes dénisoviens devaient aussi savoir travailler en équipe pour chasser le gros gibier. En entrevue, Sylvana Condemi mentionne des analyses de tartres dentaires en cours qui nous diront ce que ces Denisoviens mangeaient. Chez les Néandertaliens, ces analyses nous ont appris que ceux-ci se soignaient avec des plantes médicinales encore utilisées aujourd'hui. L'étude chinoise révèle également que les peuplades denisoviennes taillaient des os pour en faire des outils. Une autre étude chinoise, de 1987, sur des ossements, homo, déterrés dans la province du Liaoning en 1984 et aujourd'hui considérés comme denisoviens par plusieurs paléo-anthropologues, a rapporté qu'ils se trouvaient au milieu d'outils en pierre et de traces d'utilisation du feu. De plus, dans l'énigme Denisova, Sylvana Condemi présente pour argument le fait que les clans denisoviens des climats tropicaux utilisaient aussi le bambou, un peu à la manière des populations chasseuses-cueilleuses d'aujourd'hui. Pour Fabrice Demeter, les Denisoviens avaient tout à fait les mêmes capacités que nous, aucun doute là-dessus. Ces êtres énigmatiques se dévoilant de plus en plus, quel est le souhait des paléo-anthropologues interrogés ici? La découverte, au minimum, d'un crâne fossilisé contenant de l'ADN en bon état pour qu'il soit authentifié et pour qu'on puisse confirmer par comparaison la nature denisovienne des crânes mentionnés plus haut. Sylvana Condemi décrit ce que serait le jackpot pour elle. Une communauté denisovienne entière fossilisée dans une grotte, comptant des membres de tous les âges qu'on étudierait pour leur anatomie, mais aussi pour leur savoir-faire et pourquoi pas leur art. La chasse au trésor est lancée. C'était les Denisoviens, ces humains préhistoriques qui nous font réécrire l'histoire de notre espèce. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 3 octobre 2024 dans le magazine Québec Science.